chapitre 3, Sevrage de Saladin. Dix heures sonnant, Gondrequin militaire poussa un cri aigu, auquel M. Baruc répondit par le chant du coq. Aussitôt, tous les caporaux imitèrent le gloussement de la poule. C'était à faire illusion. Plusieurs rapins lancèrent la note douce et monotone qui est l'appel d'amour du crapaud au printemps. Mademoiselle Vacherie, qui avait plus d'un talent, imita la chanson du corbeau dans les campagnes solitaires. Son oncle, le patagon, renifla comme un âne entier. Le directeur des singes savants chanta à la Marseillaise, Similor aboya, échalot miaula, Saladin, le misérable enfant, exhala des plaintes déchirantes, tandis que l'albinos, ôtant sa filasse blanche, déclamait le récit de Théramène avec un haut accent méridional. Par-dessus ces divers solis, la grande voix de l'atelier cœur d'acier s'éleva, reproduisant tous les bruits de la nature et de la civilisation, depuis le grincement de la scie jusqu'au cri des canards, qui firent jadis la réputation de la vallée de Tempé. Tout cela s'exécutait dans un ordre admirable, comme le remue-ménage célèbre de l'horloge de Strasbourg à l'heure de midi. Personne ne riait. La gaieté des peintres fait frémir, qu'ils soient élèves de Raphaël ou simplement vitriers de l'école Quatre-Yeux. Quand le partage quotidien et normal eut assez duré, Gondrequin militaire appela solennellement « Monsieur Baruc Rudopoil « Plaît-il ? » demanda le second lieutenant. « Il me semble qu'une voix a murmuré mon nom. » « Le temps fuit, car il a des ailes, » répondit militaire. « Sonnez la cloche !» Monsieur Baruc, déposant sa palette et son pinceau, emmanché de long comme un balai, dit « Din-don, din-don, c'est la cloche, à cette fin qu'on prenne sa nourriture librement, chacun pouvant en allumer une à sa volonté, et bavarder entre soi sans se fâcher. Rompez les rangs à la soupe !» Qu'on l'augmente aujourd'hui spécialement du quart d'heure de grâce quotidien à cause de la fête de Monsieur Cœur. Et là-bas, en avant les bidons !» Ce discours, religieusement écouté, fut suivi d'un tumulte inexprimable. L'atelier tout entier, officiers, caporaux, soldats et modèles, se débanda bruyamment, comme font les enfants après la classe finie. Aucun pays sur la carte humaine n'a des bas-fonds si étranges, des cavernes si profondes, des ravines si perdues que cette lumineuse contrée qu'on appelle l'art. L'art est un géant dont le front noble reçoit en plein les rayons du soleil, mais dont les pieds invisibles trempent on ne sait où dans des océans de misère. Est-ce encore l'art, demandera-t-on, et ses pieds appartiennent-ils réellement à cette tête? Je penche à le croire. Voyez la distance qui sépare le comédien étoile de la pauvre litière humaine, les comparses sur lesquels on le serre comme un superbe coq de bruyère sur de la chair hachée. Rien ne ressemble à l'atelier cœur d'acier autant que ce bizarre troupeau des comparses, incessamment foulé aux pieds et vivant d'orgueil pourtant, prodigieux mystère. L'art est l'art, en bas comme en haut, et la vanité, sans de ce grand corps, descend à l'extrémité la plus infime de ces tristes orteils. Le savetier, cette moquerie de la pêche parisienne, cette petite bête non mangeable qui grouille dans la glaise du canal de l'Ourcq, est un poisson, comme le bar argenté, comme le saumon aux formes magnifiques, comme la lamproie semée de pourpre et comme le gigantesque esturgeon. Le barbet crotté est un chien, comme le noble Bloodhound se comprime à l'exposition. Le barbet est même un bon chien. Et dans ce lamentable pays qui est le sous-sol de l'art, vous rencontrerez souvent un cœur. C'étaient des artistes, ces esclaves à 25 sous pièce. Ils s'étaient fait artistes parce que la carrière de l'art est libre par excellence. On les commandait comme des enfants à l'école, mais qu'importe cela, ils étaient libres puisqu'ils ne faisaient rien d'utile. Et chacun alla à son coin. il y avait des multitudes de coins. Dans chaque coin, derrière des loques amoncelées, sous les bûches destinées aux poêles, entre les châssis et les murs, partout enfin, quelques provandes à l'odeur forte ou au goût poivré étaient cachées. L'art pauvre ne se nourrit pas comme le travail indigent. L'art a besoin de luxe, toujours, et les épices sont le luxe de la misère. Tout le monde eut bientôt son journal et sa bouteille. Le journal est l'assiette offerte à l'art par la civilisation. L'assiette est le buffet. De tous ces journaux bourrés d'esprit, de politique et de littérature, sans parfum redoutable surgir, parmi lesquels dominait le flair austère et mâle de l'ail. Horace, le cher poète, a fulminé contre l'ail de furieuses imprécations. Je n'oserais défendre l'ail contre Horace, et cependant l'ail est bien nécessaire à l'art. En un instant, les journaux dépliés répandirent dans l'atelier une épaisse atmosphère d'ail. Ils sentaient tous l'ail uniformément. Le siècle, tout jeune alors, la presse, sa sœur aînée, préludant à cette rente de 365 idées qu'elle allait assurer annuellement à ses lecteurs, la patrie, siècle du soir, le courrier français, patrie du matin, les débats drapés dans leur lange doctrinaire, la gazette de France, mouche piquante posée sur le nez du roi bourgeois, la quotidienne, souvenirs et regrets, l'estafette, le temps, le globe et 20 autres, les forts et les faibles, les intelligents et les obtus, tous sentaient l'ail. L'ail est le niveau. Une fois tombé à ses profondeurs, les chefs-d'œuvre de l'esprit humain ne respirent plus qu'un souffle, l'ail. Cependant, auprès du poêle, l'aristocratie mangeait dans des assiettes. Monsieur Baruc, un rognon, sauté par viol aquatique, Gondrequin militaire, l'aile d'un poulet maigre, rôti par l'aquatique Rousseau. Autour d'eux, la bourgeoisie et le peuple, disposés dans un joli désordre, tordaient le petit salé ou broyaient le cervelas avec un appétit unanime. On causait, on riait, on chantait. Dans cette foule joyeuse, nous choisirons trois groupes, plus particulièrement liés à notre histoire. Le premier groupe, composé de deux individus seulement, se tenait à l'écart. Il était formé par Échalot, pour le torse, et le pauvre vilain petit enfant, qui posait pour le bambin volant dans le tableau des jeux zygomatiques. Les deux moitiés d'athlètes s'étaient en effet séparées, pendant qu'Échalot, cœur véritablement maternel, s'occupait de l'héritier indivis, Similor les Mollets, homme de plaisir, avait rejoint Mademoiselle Vacherie et déjeuné avec les saltimbanques. C'était ici le second groupe, composé du pitre, du premier rôle, de l'ours, de l'albinos et du physicien. Le troisième groupe ne comptait guère que des artistes de l'atelier et entourait Gondrequin militaire qui avait la parole solennelle, abondante et difficile. Monsieur Baruc, lui, semblait préoccupé. Ses petits yeux gris allaient et venaient. Saladin pouvait avoir 2 ans, moins quelques mois. Il ne parlait pas encore, mais il se traînait comme un reptile. Il était laid, chétif et mal tourné. Échalot le tenait tout frétillant dans ses bras et essayait de lui faire avaler un bon morceau de saucisson au gros poivre. Saladin résistait comme un diable. Échalot lui disait, avec cette implacable douceur des gens patients, « Saladin, tu n'es pas raisonnable. Tu ne peux pas toujours téter jusqu'à l'âge de la conscription, pas vrai? Avale ça, comme un mignon petit garçon, puisque c'est pour ton bien. Ayant consulté un vétérinaire, et qu'il est temps de te sevrer, mioche, pour commencer ta première éducation. » Saladin ne voulait pas. Il faisait d'abominables grimaces et essayait de crier, mais Échalot, qui connaissait la puissance de sa voix et craignait le scandale, lui tenait la bouche à poignée, disant « Ah, t'as les torts de ton côté, ton papa ne fait rien pour toi, c'est moi seul qu'en ai toutes les charges. Sois senti, le saucisson te communiquera une force virile, bien supérieure au lait qu'est tripoté dans Paris, à l'aide d'amidon et de cervelle d'anciens chevaux de fiacre. Il n'y a pas plus brillant que les laitiers. Vas-tu l'ouvrir, petite drogue, ta bouche? Ah, tu vois, Saladin, tu m'as forcé pour la première fois à l'impolitesse à ton égard. » Saladin, qui se roulait comme un serpent, échappa à son étreinte et laboura de 10 ongles noirs et crochus qu'il avait la pauvre joue maigre de son père nourricier. Échalot l'embrassa. « Gamin d'espiègle, grommela-t-il en riant, auras-tu de l'esprit ?» Et puis, avec une fermeté douce, « N'empêche que tu devrais remercier le ciel d'être sevré avec du saucisson. Il faut que l'homme soit sevré dans sa jeunesse, tu m'en sauras gré plus tard. Allons, Saladin, sois raisonnable, ça te fera du bien à ta santé. Voyons, goûte-moi ça, est-ce que je tète, moi ? Ah, n'y a que toi ici qui tète, t'as pas honte ?» La sueur coulait sur ton front. Il l'essuya d'un revers de manche et pensa « Une idée qu'il a, quoi, si jeune, s'est déjà buté contre le saucisson. » À quelques pas de là, le galant Similor oubliait son jeune fils. C'était son habitude. Peu lui importait cette opération du sevrage, si délicate et si difficile. Esclave de ses passions, il dissipait son salaire avec Mademoiselle Vacherie. Ce n'était pas un joli garçon, mais il avait une tournure artiste sous son paletot de peluche trop étroit. Les jambes nues, la tête coiffée d'un vieux chapeau gris, d'où s'échappaient ses cheveux jaunes en révolte, il était en train de faire sa cour. « On a le fil, quoi !» disait-il d'un air à la fois scélérat et naïf. « On est ce qui s'appelle un roué de la régence, avec tous les divers trucs à sa portée, susceptible de rendre une petite femme heureuse, comme le poisson dans l'eau, pour la bouche, la toilette, et tout. Oh, c'est pas l'embarras, l'amour m'a bien nui dans mes carrières, mais que voulez-vous ? On a abusé de tout dans l'existence d'un jeune homme, à la mode auprès des belles, sans perdre de vue, toutefois, le sentier de l'honneur. Ah, vous avez dû tout de même en voir de drôle, monsieur Similor, soupira Mademoiselle Vacherie, qui dévorait du gras double dans une écuelle de terre brune. Et combien Similor la trouvait belle ainsi, assise par terre, les pieds sur une chaise et le nez dans sa tasse. La grosse caisse du théâtre des jeunes élèves, dont le personnel se composait de 32 chiens savants, ajouta aigrement « Mais comment faites-vous donc l'enflé pour gagner tant d'argent ?»« Tant d'argent, bonté divine !» Similor avait enfin trouvé un homme qui le prenait pour un capitaliste, un homme qui lui portait envie. Son cœur grossit dans sa poitrine, sa tête se redressa, rayonnante de fierté. Dire que les citoyens naissent tous égaux dans son berceau, répliqua-t-il d'un ton de professeur, c'est des faiblesses. Voyez Échalot, mon domestique, que j'ai pris pour me suppléer dans les soins de mon enfant, abandonné par sa noble mère, qu'appartient à la première société de la chaussée d'Antin, et que je pourrais la perdre de fond en comble, rien qu'en disant à son millionnaire d'époux, psité là-bas, votre baronne a commis une importunité avec un jeune homme pas mal, qu'est moi, sensé, dont j'ai les témoignages dans sa correspondance sur papier de soie, où elle écrivait « Similor, idole de mon âme », et que Saladin en est la preuve matérielle d'un caprice coupable en ma faveur, avec quoi on pourrait faire chanter l'orgueilleuse famille sur toutes les airs qu'on voudrait. Si on n'écoutait pas les sentiments de la délicatesse. L'auditoire écoutait, bouche béante, et Mademoiselle Vacherie oubliait d'avaler tant elle était contente. Une chose nous gêne, c'est la peur d'imiter Virgile. Évidemment, cette scène ressemble à l'entrevue d'Énée, fils d'Anchise, avec Didon entouré de sa cour, mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et Similor posa son chapeau de travers. Son double triomphe d'orateur et de séducteur l'enivrait. « C'était pour vous faire observer, reprit-il, qu'Échalot a eu les mêmes occasions que moi dans le monde. Pourquoi est-il resté en bas du mur pendant que je montais à l'échelle ? C'est les facultés de l'âme. Quant à moi, parti de la danse des salons, dont j'ai tous les certificats et diplômes, j'ai arrivé par les femmes, joint à mon adresse. Tant que vous ne faites pas de tort à l'honneur, vous pouvez marcher tête levée, c'est connu. La ficelle est permise, comme la marque de la pénétration de chacun. Oui, ma poule, s'interrompit-il en offrant son cornet de tabac à Mademoiselle Vacherie. J'en ai vu de drôles, et j'ai été mélangé à des machines où il s'agissait de millions de milliasses. Tel que vous me connaissez, je déjeunais tous les matins avec Toulonnais l'amitié. Le fameux monsieur Lecoq, fit-on à voix basse dans le cercle. Ah, celui qui a été guillotiné par la porte d'un coffre-fort chez le banquier Schwartz, ajouta Mademoiselle Vacherie. Ah, voilà une histoire qui m'a amusé. Chacun se rapprocha. Ce drame tout récent et surtout la sauvage étrangeté de la péripétie avait profondément impressionné la classe populaire, qui en savait plus long à ce sujet que le public ordinaire et même que la justice. Car plus vous plongez, mieux vous entendez circuler les mélodramatiques rumeurs. Mille versions s'étaient produites après la mort violente de Monsieur Lecoq. La légende des habits noirs courait les basses rues et défrayait les pauvres veillées. On était avide de savoir. Similo siffla un « chut » retentissant. Quelqu'un d'honnête et rusé qui veut se faire tout doucement sa fortune, reprit-il avec mystère, peut encore trouver des occasions, quoi que ça. Les habits noirs, il n'y en a jamais eu. C'était les badauds qui inventaient ces drôleries-là. Ce qui est vrai, c'est qu'on trouve des gens qui font un commerce quelconque dans les brouillards et qui ont besoin d'individus pour veiller ou filer les paquets, en tout bien, tout honneur, sans savoir de quoi ils retournent. Est-ce qu'on a seulement pu faire le moindre chagrin au maître de l'estaminet de l'épicier, où l'on disait que les habits noirs tenaient leurs assemblées? Ni vu, ni connu, c'était des limonadiers, voilà, on venait chez eux bloquer la poule. Il y en a donc deux qui ont disparu, Monsieur Lecoq et Monsieur Trois-Pattes du Plat d'Étain. « Est-ce que vous avez connu Trois-Pattes, vous, monsieur Similor ?» demanda la belle Vacherie, qui mit dans sa voix rauque une poignée de caresses. Similor raidit ses magnifiques mollets. Il grandissait à vue d'œil. Son vieux chapeau gris laissait passer des rayons. « Oh, si vrai, comme vous êtes la jolie des jolies !» répondit-il. « Je l'ai non seulement connue, mais fréquentée dans sa particularité, ayant notre appartenance sur le même carré du sien, dans la propre maison de l'agence Lecoq, et à même de vous dire qu'il recevait des dames de première catégorie, qu'on leur dérobait, ça et là, une caresse dans l'escalier en passant, histoire de badiner, mais sans y engager son cœur. » Que leur carrosse attendait à la porte et que, malgré leur falbala, elles devenaient douces comme des agneaux dès qu'on leur coulait à l'oreille. Fera-t-il jour demain ? Similor cessa de parler tout à coup. Il avait vu briller le petit œil gris de Monsieur Baruch. « Oui, cherche rude au poil, grommela-t-il au lieu de poursuivre. Ta affaire a plus faim que toi, mon bonhomme. » Et il continua avec emphase. « Rien dans les mains, rien dans les poches. Oh, je ne crains pas l'investigation de ma carrière par l'œil jaloux de l'autorité. Et pour quant à mes secrets que j'ai recueillis, je saurais me les conserver au sein des plus cruelles tortures. » Monsieur Baruch avait déjà tourné le dos et s'était perdu parmi les groupes. Dans le silence qui suivit, on put entendre les rapins qui criaient autour du poète. « C'est ça, militaire, racontez-nous la naissance de Monsieur Cœur. » Et plus loin, l'organe doux du pauvre échalot répétant avec une inépuisable patience. « Un Saladin, sois raisonnable, un jeune homme qui n'aurait pas été sevré, ce serait ridicule, tu m'en remercieras plus tard. » « Fixe !» ordonna Gondrequin militaire. « C'est une anecdote qui se raconte annuellement à la périodicité de la fête de Monsieur Cœur, pour l'usage des nouveaux. On appelle ça la naissance de Monsieur Cœur, mais c'est impropre. Monsieur Cœur ayant dans les 28 à 30 ans, à vue de pays, et la chose datant de 1832, nuit de la mi-carême. Seulement, il est né pour nous, cette nuit-là, et ça suffit. Y sommes-nous? Oui, c'est bien. Cascadin est chargé de se taire. C'était sous monsieur et madame Lampion, qui vinrent après Tamerlan. Ôtez vos casquettes. Monsieur Lampion avait du talent, mais madame aimait trop sa bouche. L'atelier ne fructifiait pas. Monsieur Baruc cherchait une place dans le commerce, et moi, je tirais l'œil mollement. Et quoi, il faut la réussite pour étayer la capacité. Alors, on avait passé la nuit de la mi-carême à se déboucher à la renaissance de Cypris, barrière d'Italie, chez Tronçon, dont on mangeait l'enseigne. Ah, fixe où je me tais. Nous descendions donc, sur le matin, après la bamboche, l'atelier, à pied. Monsieur et madame, dans un fiacre rond comme des ballons. Le fiacre arrivait ici-dessous dans la rue, quand les chevaux s'arrêtèrent court, Rudeaupoil cria « Allons de l'avant, comme des tigres !» Moi je dis « Le temps fuit, car il a des ailes !» Le cocher fouailla, rien n'y fit. En conséquence, je me portai sur le devant du véhicule pour reconnaître l'obstacle qui inconvénientait les chevaux. « Ce fut moi !» l'interrompit Monsieur Baruc. Parfait, répliqua militaire avec humeur. Ce fut vous, mais lequel de nous deux cria au ciel, une femme, pas possible. C'était donc une femme? Demanda Cascadin curieux. Oui, Blanc-Bec, en noir et radicalement évanouie. Les chevaux s'étaient refusés à l'écraser, étant doués de cet instinct par les naturalistes. Nous la relevâmes et nous la portâmes ici, et en retrouvant ses sens, le pauvre jeune homme murmura « Oh, ma mère !»« Comment, le jeune homme » fit-on de toutes parts. « Et quel jeune homme ?»« Monsieur Gondrequin, » déclara Baruc, « vous avez raté votre tire-l'œil. Retouchez cela. » C'était lui, gronda militaire. Tout le monde avait deviné, n'est-ce pas, les enfants, que vous l'aviez deviné. Néanmoins, j'intercale que la femme en noir était un déguisement sous lequel l'étranger cachait son sexe et ses malheurs. Est-ce clair maintenant? Personne n'a jamais connu son secret. Si M. Baruc le sait, qu'il le dise, ça me fera plaisir. Après quelques mois de maladie, monsieur et madame, séduits par ses bonnes qualités, lui proposèrent la main de mademoiselle, briguée par monsieur Baruc, ici présent. Attrape! Et par vous, rectifia Rudeaupoil. Ah, mais... Militaire exhala un large soupir. Elle a mal fini, murmura-t-il, mais elle avait du zeste. Ah, je pense à elle annuellement, à la périodicité de la fête de monsieur Cœur. L'étranger ne voulut pas de mademoiselle. Il eut raison, à cause des mœurs. Néanmoins, monsieur et madame l'installèrent dans le pavillon du bout à faire des portraits et des paysages, des frivolités qui sont jolies, si on veut, mais qui ne valent rien en foire. Monsieur Cœur est un vrai peintre, voilà tout, laissa tomber Baruc solennellement. Rien en foire, répéta Gondrequin. La preuve, c'est qu'ayant été institué à l'unanimité Cœur d'Acier en chef et patriarche de l'atelier après le décès de monsieur et madame Lampion, arrivé d'après les lois de la nature, par suite d'excès habituels et ripailles indéfinies, monsieur Cœur a eu la bonté de nous donner ici et là un coup de fion à nos toiles. C'était superbe. On croyait qu'on allait gagner des sommes. Nisco, les clients, quand ils ont vu des jambes en proportion, des yeux posés d'ensemble et des bras bien d'aplomb, se sont fâchés tout net, disant « Est-ce qu'on nous prend pour des bourgeois ?» Par conséquent, monsieur Cœur est l'honneur et le lustre de l'atelier, mais il ne faut pas qu'il y touche. Ah, tout va bien, pourvu qu'il ne mette pas la main à la pâte. La foire veut ça. Le génie y remplace l'éducation. Vive tout de même monsieur Cœur pour le jour de sa fête. » La voix de monsieur Baruc ne se mêla point à l'acclamation générale qui ponctua le discours de militaire. C'était pourtant un fanatique de monsieur Cœur. Depuis quelques secondes, il ne s'occupait plus de son rival et ami, monsieur Gondrequin. le groupe au centre duquel pérorait Similor attirait de nouveau son attention. Pendant que Gondrequin, changeant de sujet, parlait avec tristesse à ses rapins de Loup-Cervier, de Bande Noire, de la maison mise en vente et de l'atelier menacé d'exil, M. Baruch, demi-caché derrière le tuyau du poêle, écoutait attentivement Similor, qui, serré de près par Mademoiselle Vacherie, l'ours, le physicien, l'albinos, le poète et le premier rôle, disait mystérieusement « Méfiance, la chose de fera-t-il jour demain est en baisse pour le quart d'heure actuel, mais on peut encore piquer une affaire de temps en temps. » J'ai eu 100 francs pour m'avoir promené un petit peu au coin de la rue Cassette, le jour qu'ils ont monté chez le notaire du numéro 3 par la fenêtre. Si ça vous va de travailler, on vous présentera, mais pas un mot à l'imbécile là-bas, c'est pas un homme, il a descendu au sexe de nourrice. » Il montrait du doigt Échalot, qui, à bout de patience, venait de fourrer d'autorité le morceau de cervelas dans la gorge de Saladin. L'enfant, étouffé, criait avec désespoir. Échalot, heureux de son succès, lui tapait doucement entre les deux épaules, disant « Tu vois bien que ce n'était pas la mer à boire. Te voilà sevré sans t'en apercevoir, et tu me le dois, Saladin, pour le reste de tes jours. » Le malheureux enfant fut secoué par une dernière convulsion et resta sans mouvement. « C'est ça, approuva Échalot, fais ton petit dodo. Moi, je vais déjeuner. » À ce moment, Cascadin, le dernier des derniers, ouvrit à deux battants la porte de l'atelier et s'écria d'une voix retentissante « Les Loup-Cervier !» Puis il ajouta en tirant sa casquette « C'est pour avoir l'honneur de vous annoncer la Bande Noire qui vient jouer avec nous à Haute-toi-de-là que je m'y mette. Saluez !»